Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Un magazine encore largement consacré à Benoît XVI et au Vatican avec tout d'abord cette nouvelle. Le IOR, la Banque du Vatican, un nouveau président, l'avocat allemand Ernst von Freiberg. L'annonce en a été faite ce jeudi matin. Nous reviendrons ensuite largement sur les réactions qu'a suscité la décision de Benoît XVI de renoncer à sa charge, avec notamment le cardinal Le Cottier, théologien. Il nous expliquera ce qu'il pense être la signification spirituelle de ce geste du pape. Enfin, nous évoquerons à la fin de ce magazine la figure du père Werenfried von Straten, le fondateur d'aide à l'église en détresse. Il aurait eu 100 ans cette année. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Preuve s'il en est que la vie ne s'arrête pas au Vatican malgré la renonciation de Benoît XVI. Après une journée de spéculation jeudi, la décision est donc tombée ce vendredi matin. Le IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, a un nouveau président. L'avocat allemand Ernst von Freiberg a en effet été nommé président du conseil de surveillance de la Banque du Vatican après une sélection de près de 8 mois après le départ de son prédécesseur Ettore Gotti Tedeschi en mai dernier. Antonino Gallofaro.
La sélection aura été longue. Le Vatican aura même fait appel à une agence internationale indépendante qui a proposé 40 candidats au conseil de surveillance du IOR, conseil qui a réduit le nombre de candidats à 3. Et parmi ces 3, c'est la commission des cardinaux qui a tranché pour l'avocat allemand. Ernst von Freiberg, 58 ans et allemand, sera 3 jours par semaine à Rome. L'avocat travaillera par contre exclusivement pour la Banque du Vatican. C'est ce qu'a précisé le père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Ernst von Freiberg restera cependant le président du groupe Blohm & Voss, un groupe qui transforme et répare des bateaux de croisière. Le groupe fait partie également d'un consortium qui construit 4 frégates pour la marine allemande. La nomination de cet homme membre de l'Ordre de Malte a été validée jeudi par le pape lui-même. Benoît XVI, qui ne le connaît pas personnellement, mais qui connaît par contre sa famille, a précisé le père Lombardi. Cette nomination est une nouvelle étape dans la volonté du Vatican d'obtenir la reconnaissance de la transparence de ses institutions financières. Début juillet, un rapport de Monival, un groupe d'experts du Conseil de l'Europe, avait estimé que les autorités vaticanes avaient accompli un très long parcours en un laps de temps très court. Mais du travail reste encore toutefois à accomplir.
Antonino Gallofaro. Le pape poursuit donc ses activités normalement. Il a reçu ce vendredi matin les membres de l'association Pro Petri Sede, organisation du Benelux, dont les objectifs principaux sont d'étudier, diffuser et défendre l'enseignement du pape là où c'est nécessaire et de promouvoir les intérêts du Saint-Siège. Dans son discours prononcé en français, Benoît XVI est revenu sur l'année de la foi qui nous invite à une conversion authentique au Seigneur Jésus. La foi est une réalité vivante, a poursuivi le pape, qu'il faut sans cesse découvrir et approfondir afin qu'elle puisse grandir. C'est elle qui doit orienter le regard et l'action du chrétien. L'année de la foi est une occasion propice pour intensifier le témoignage de la charité, a-t-il ajouté, avant de préciser que c'est le témoignage de l'amour de Dieu pour chacun de nos frères en humanité qui donne le vrai sens de la charité chrétienne. Celle-ci, a-t-il mis en garde, ne peut se réduire à un simple humanisme ou à une entreprise de promotion humaine. L'aide matérielle, aussi nécessaire soit-elle, n'est pas le tout de la charité qui est participation à l'amour du Christ reçu et partagé. Toute œuvre de charité authentique est donc une manifestation concrète de l'amour de Dieu pour les hommes, et par là, elle devient annonce de l'Évangile, a-t-il enfin conclu. Autre audience ce vendredi au palais apostolique, celle du président de la République de Roumanie. Benoît XVI s'est entretenu avec Traian Băsescu. Selon le communiqué officiel de la salle de presse du Saint-Siège, l'entretien s'est déroulé dans un climat cordial. Les bonnes relations entre la Roumanie et le Saint-Siège ont été soulignées, notamment la collaboration au niveau européen en matière de sauvegarde des valeurs communes. Les questions de collaboration dans le domaine de l'éducation ont également été évoquées. Ultime audience, celle des évêques de Ligurie, actuellement en visite ad limina. Ils étaient menés par le cardinal Le Bagnasco, archevêque de Gênes et président de la conférence épiscopale italienne. Samedi, ce sont des évêques de Lombardie, autre région italienne, qui seront reçus par le pape. Ils seront, eux, menés par le cardinal Scola, l'archevêque de Milan, le plus grand diocèse au monde. Thank you. La décision extraordinaire au premier sens du terme, réaction sans commune mesure. Les messages continuent à arriver au Vatican pour saluer le pape. Parmi elles, celle du directeur général de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation. José Graciano da Silva, contacté par Radio Vatican, a confié sa tristesse quand il a appris la nouvelle. Il est cependant content du geste novateur qui reconnaît qu'une autre personne doit assumer cette responsabilité. José Graciano da Silva en profite pour saluer le soutien que l'Église a toujours accordé à la FAO. Il assure enfin que le nouveau pape poursuivra l'engagement fondamental contre la pauvreté et la faim. Tristesse, surprise, émoi. Nombreuses sont les émotions qu'a suscité à travers le monde l'annonce de la renonciation de Benoît XVI au trône de pierre. Courageux, humble sont également quelques-uns des adjectifs utilisés pour définir le geste inédit du pape. Du monde entier, les témoignages de sympathie, les hommages abondent. Mais sans aller aussi loin, au cœur de la curie romaine, l'émotion reste vive parmi les cardinaux présents à Rome. Parmi eux, le cardinal Georges Cottier, 91 ans. Il évoque, au micro de Manuela Affigi, la signification spirituelle de ce geste de Benoît XVI.
Mais la signification spirituelle tient au ministère de Pierre. L'évêque de Rome, il a pris cette femme, est le successeur de Pierre. Donc c'est lui qui a la charge de l'unité de l'Église, de la rectitude du chemin de l'Église pour l'Église universelle. Donc c'est un poids considérable. Ça peut pas être un acte qui soit fait à la légère. Donc ça a été, quand il a dit qu'il a pris cette décision devant Dieu, qu'il a beaucoup réfléchi et beaucoup prié, c'est là qu'est la réponse à votre question. Je pense que elle a été longuement mûrie et méditée et priée, cette réponse. Alors il s'est dit, je n'ai plus les forces pour continuer à porter cette charge. Et il en a tiré la conclusion qu'il devait se retirer. Cet acte-là, il l'a fait pour la papauté. Il n'est pas le premier, Paul VI avait beaucoup réfléchi à ça et avait pensé à démissionner aussi. Puis il a pensé que son devoir était de rester. Tout dépend de l'état de santé qui est celui du pape, c'est une chose très personnelle. Il reste le cas que les gens soulèvent de Jean-Paul II. Monsieur Dzivich a donné la réponse, je crois que c'est que on gouverne aussi par la souffrance, disait Jean-Paul II. Mais le pape ne sentait pas ses forces diminuer. C'est la maladie qui progressait chez lui. C'est très différent. Il a donné un ultime message comme un grand souffrant, hein, Jean-Paul II. Le pape actuel a tiré une autre conclusion, mais toutes les deux sont très belles, je trouve. Toutes les deux sont très belles. Ce qui nous fait voir aussi que c'est un acte personnel. Oui.
La figure du pape représente une certaine stabilité. C'est le successeur de Pierre, ce qui implique un don de soi jusqu'au bout. Pierre, c'est celui qui affermit ses frères jusqu'au bout. Vous pouvez comprendre que beaucoup de fidèles catholiques se sentent ébranlés dans leur foi. Est-ce que c'est la perception du ministère pétrinien qui change complètement ?
Non, je ne me base pas du tout comme la perception du ministère pétrinien. On sent les forces qui diminuent, mais prenez jusqu'à ses tout derniers discours. Il y a une vigueur de pensée, une clarté de pensée étonnante. Hein. Encore la rencontre qu'il a eue avec les séminaristes de Rome l'autre jour. Donc, il n'a pas faibli dans le ministère même. C'est ses forces physiques et peut-être psychiques aussi pour assurer le ministère. C'est très différent. S'il y avait un fléchissement dans le ministère, il y aurait de quoi craindre. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que les choses se passent avec une grande paix. Tout est bien minuté, hein, il a prévu tout. Quand un phénomène semblable se produit dans un état, quelle turbulence, hein, quelle turbulence, quelle manifestation, quelquefois des manifestations de violence ou de désordre. Là, ça, tout se passe dans la paix.
Ce sera une situation inédite. Nous aurons un nouveau pape et un ancien pape, entre guillemets, oui, dans l'enceinte du Vatican. Comment expliquez-vous ce choix de Benoît XVI de rester ici ?
Alors, je dois vous dire qu'au début, ça m'a surpris. Et j'ai réfléchi et je me suis dit que c'est un très bon choix. Pourquoi ? Parce que supposer le pape se retiré dans une abbaye bénédictine, parce qu'il aimait beaucoup les bénédictins, que ce soit à Subiac ou en Allemagne, beaucoup pensaient qu'il est en Allemagne, cette abbaye est détruite. Les journalistes vont arriver comme des mouches là-dessus, et il va être envahi de questions, de gens qui vont tricher pour l'approcher, tout ça. Je crois que nulle part il peut être tranquille. Le seul endroit où il peut être tranquille, c'est dans ce monastère du Vatican. Et le connaissant, c'est un homme très discret, silencieux, respectueux. Je crois que ce n'est pas quelqu'un qui va être envahissant pour son successeur. Il va respecter pleinement. Il n'y a pas de pape émérite. Il y a quelqu'un qui a donné sa démission et qui rentre, si je peux dire, dans le rang du collège des cardinaux, évidemment avec une... On lui doit un respect spécial dans ce qu'il a fait, ce qu'a été sa vie. Mais je pense que ça ne va pas porter ombrage à son successeur. Et lui sera le premier attentif à éviter qu'il y ait des confusions.
Est-ce que vous pouvez comprendre que certains fidèles continuent de le concevoir comme le pape Benoît XVI, même s'il y aura un nouveau pape?
Mais ils doivent. On ne peut pas faire qu'il n'ait pas été pape. Oui. Et ça, que ça reste dans la mémoire, d'une manière vivante, c'est heureux. Et ça doit être. La démission ne veut pas dire l'oubli. Hein. Et on ne doit pas l'oublier. Tout ce qu'on lui doit, je pense qu'on va mettre en valeur tout ce qu'il nous a donné.
Le cardinal Cottier, qui fut théologien de la maison pontificale et secrétaire général de la Commission théologique internationale. En Inde, le cardinal de Gracias, archevêque de Bombay, organisera le 22 février prochain, fête de la chaire de Saint-Pierre, une journée spéciale en l'honneur de Benoît XVI. Il a salué le fait que le pape, durant ces 8 dernières années, a identifié à de maintes reprises les défis auxquels font face l'Inde et l'Asie, à savoir le dialogue entre les cultures et les religions, la sécularisation, la mondialisation et l'application de la doctrine sociale de l'Église. Le président de la Conférence des évêques d'Inde a ainsi demandé à toutes les institutions catholiques du pays de dédier une heure d'adoration pour le pape ce 22 février. Même émotion de la part de l'épiscopat canadien. Nous avons appris à vous aimer et à vous admirer. C'est dans l'admiration que nous accueillons le témoignage de courage vécu et l'admirable clarté de pensée qui ont marqué vos nombreuses années de dévouement et de service comme prêtre et évêque, comme enseignant et écrivain, comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi et, d'une manière toute particulière, comme pasteur de l'Église universelle, écrit notamment Mgr Richard Smith, archevêque d'Edmonton et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. L'archevêque d'Edmonton redit combien les encycliques, les homélies et les innombrables messages du pape laissent l'héritage d'un enseignement limpide, pénétré d'amour pour le Christ et son Église. Cet héritage sera un guide sûr pour les chrétiennes et les chrétiens des prochaines générations, écrit-il encore. Les réactions vont bien au-delà du cercle de l'Église. En France, le maire de Lourdes, commune qui abrite un des plus grands sanctuaires mariaux du monde, a tenu lui aussi à témoigner. De passage à Rome pour discuter avec les chemins de fer italiens du transport des personnes malades jusqu'à la grotte de Lourdes, Jean-Pierre Artiganave a été reçu, comme cela a été prévu depuis de nombreuses semaines, par Benoît XVI mercredi. La renonciation du pape a changé évidemment le contexte de cette entrevue qui restera un grand moment pour l'édile français.
Un moment émouvant où j'ai voulu lui donner de l'eau de Lourdes. Il m'a dit que c'était une attention très touchante. Je pense qu'il est attaché aussi et il l'a montré à ce lieu de pèlerinage. Et je l'ai remercié de tout ce qu'il avait pu faire pour nous, pour l'humanité, pour la chrétienté en général. On a dit que ce pape était un pape de transition. D'abord, je trouvais toujours ça faux. Il montre au contraire qu'il donne un legs à l'humanité d'une part et à la papauté d'autre part, qui est d'une humilité et d'une modernité absolue. Je trouve que ça fut un pape, évidemment, dont on savait qu'il avait une extraordinaire intelligence, évidemment une extraordinaire culture. Mais là, qui plus est, il ajoute une modernité absolue, ce que je trouve remarquable et qui est un exemple pour beaucoup, d'abord d'hommes et de femmes de pouvoir et même au-delà. Moi, j'ai toujours admiré Benoît XVI. C'est un homme qui aura apporté, je crois, de la lumière à l'Église parce que l'Église a besoin d'intelligence et aussi a besoin d'humilité. Et il avait les deux.
Jean-Pierre Artiganave, maire de Lourdes, au micro de Jean-Baptiste Cocagne. Pour clore ce magazine, laissons quelques instants le Vatican et parlons d'aide à l'Église en détresse. Reconnue comme fondation pontificale ayant son siège au Vatican, l'organisme a pour mission de venir en aide concrètement aux chrétiens persécutés, menacés ou réfugiés et soutient financièrement plus de 5000 projets dans le monde. Aide à l'Église en détresse a été fondée après la Deuxième Guerre mondiale par le père Werenfried von Straten. On l'appelait le plus grand mendiant du XXe siècle. En un demi-siècle, le légendaire prêtre en soutane blanche, armé de son éternel chapeau à millions noirs, a parcouru la planète entière à la rencontre des plus opprimés. Il s'est éteint le 31 janvier 2003. Cette année, il aurait donc fêté ses 100 ans. Retour sur ce personnage haut en couleur avec Marc Fromager, l'actuel directeur national France d'AED.
Le père Werenfried von Straten, c'est donc le fondateur de l'aide à l'Église en détresse. Et on vient de fêter à la fois le centenaire de sa naissance, il est né en janvier 1913, et le 10e anniversaire de son décès, c'était le 31 janvier 2003. Il était un moine prémontré hollandais. Il a commencé assez jeune dans une abbaye en Belgique, à Tongerlo, après avoir essayé d'être capucin, mais où il a été refusé pour raison de santé. Visiblement, ils ne l'ont pas trouvé suffisamment robuste. Or, c'est assez étonnant lorsqu'on pense à sa vie, parce qu'il est donc mort à 90 ans, après avoir parcouru toute la planète en long et en large, dans souvent des situations assez rocambolesques, déguisé lorsqu'il passait le rideau de fer derrière en Europe de l'Est, à l'époque de la persécution communiste, à la rencontre de Mère Teresa dès les années 50 en Inde, en Afrique, capturé et fait prisonnier à plusieurs reprises. Enfin, une vie tout à fait aventureuse et rocambolesque, je le disais, pour quelqu'un donc qui au départ, visiblement, n'était pas de santé suffisante.
On le surnommait le père Hollard. Pourquoi est-ce qu'on le surnommait ainsi ?
Alors en réalité, donc l'œuvre commence en 1947, donc au lendemain de la guerre. Il a cette intuition qu'il nous faut absolument nous réconcilier en Europe, notamment les chrétiens. Et il commence donc à prêcher dans la campagne flamande en Belgique, où se situe son abbaye, pour demander de l'aide pour les catholiques allemands. L'Allemagne au lendemain de la guerre est complètement dévastée. Il y a énormément de réfugiés de l'Allemagne de l'Est, et notamment des populations catholiques qui se retrouvent dans des situations économiques dramatiques. Et donc, ils demandent aux gens de l'aide, et la seule chose qu'ils ont à l'époque, notamment à la campagne, eh ben, c'est un petit peu de cochon, de lard, et ils lancent cette idée de que les gens donnent à manger. Hein. C'était la priorité à l'époque, et son opération va réussir de manière tout à fait spectaculaire, et il va collecter des tonnes de lard qu'il acheminera en Allemagne, et c'est la raison pour laquelle on lui a donné ce sobriquet de père au lard, parce qu'il aura permis à d'innombrables personnes de ne pas mourir de faim. L'œuvre va ensuite se développer au-delà de l'aide alimentaire. Il va aussi apporter des vêtements et ensuite des voitures, des toutes sortes d'aides matérielles pour les chrétiens en Allemagne. Et ensuite, la situation va se stabiliser en Allemagne. Il va surtout s'occuper de tous les réfugiés d'Europe de l'Est, et notamment des catholiques qui essayent d'échapper à la persécution qui s'est abattue sur toute cette région du monde à ce moment-là.
AED a changé d'esprit ou a toujours gardé finalement le même cap, le même chemin qu'avait déjà donné le père Werenfried à l'époque ?
On peut dire qu'on est resté vraiment très fidèle à son charisme. Disons que tout à fait au départ, on vient de le dire, c'était une aide alimentaire pour sauver des réfugiés catholiques. Alors cette attention aux réfugiés, on l'a conservée aujourd'hui. Simplement, effectivement, quelques années plus tard, et notamment avec les réfugiés d'Europe de l'Est, où la persécution sévissait, l'œuvre s'est vraiment focalisée sur l'aide aux chrétiens persécutés. Et donc ça, c'est vraiment le tout début de l'œuvre également, et c'est resté vraiment le cœur de notre mission, la priorité de notre action. Et aujourd'hui encore, où que ce soit, dans 150 pays dans le monde, notre priorité, c'est évidemment de soutenir l'Église catholique. Donc on est avant tout une œuvre missionnaire, y compris d'ailleurs dans des pays où l'Église n'est pas forcément persécutée. Mais l'Église en détresse, on la comprend également dans le sens d'une Église qui manque de moyens financiers. Mais notre priorité reste vraiment tous les pays où l'Église est discriminée, où elle est persécutée. Et malheureusement, le nombre de pays, en tout cas aujourd'hui, n'a pas diminué considérablement. Le nombre de pays donc où l'Église souffre, et c'est la raison pour laquelle il nous semble que l'aide à l'Église en détresse reste tout à fait d'actualité, sa mission tout à fait importante aujourd'hui encore. Et lorsqu'on relit un petit peu l'histoire, donc c'est 60 ans, 65 ans de l'histoire de l'œuvre, on s'aperçoit qu'en réalité, on est vraiment resté tout à fait fidèle à l'intuition de départ du père Werenfried. Et c'est sans doute ça qui, nous semble-t-il, est une des clés d'explication du succès, entre guillemets, de l'œuvre, puisque nous réussissons à toucher quand même pas mal de personnes et à soutenir plus de 6000 projets à travers le monde chaque année.
Des propos recueillis par Thomas Chabol. Et c'est ainsi que se termine ce magazine. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.